Chapitre 34. Le 20 août 2016, 8 heures. La mère charriait des bouteilles vides, des confettis mouillés et des serpentins brisés, comme autant de rêves abandonnés au bout de la nuit par des danseurs épuisés, par des fêtards au bout du désespoir, et que les vagues ramenaient au matin, délavés. Au tout petit matin. L'Arion flottait entre les détritus. Natale, perdue dans ses pensées, semblait s'en foutre, comme s'il y avait bien longtemps qu'il avait abandonné l'espoir que la mère lui recrache la bouteille à la mer, postée il y a des années. Clotilde était en retard. Elle s'arrêta pourtant, un instant, juste avant de descendre sur la plage de l'Ocheluccia. Quelques secondes pour remonter le temps. C'était le même sable que 27 ans auparavant. Les mêmes galets, la même écume, les mêmes embruns mêlés au parfum âcre et poivré des fleurs nichées au creux des rochers. Rien n'avait changé si on ne regardait pas du côté de la paillote tropicaliste ou du chantier de la marina Roc et Marais. Quelque chose chavirait à nouveau dans son cœur, tanguait, comme cette barque chahutée par la houle. Mon Dieu, que Natale était beau. Il suffisait à ce salaud d'être là, de se tenir assis, à surveiller l'horizon de ses yeux lagons, de son regard à faire exploser toutes les barrières de corail du monde pour que s'échappent les balistes et les poissons clowns, avec pour mission de colorer et de faire se gondoler les océans. Natale portait un sweatshirt à capuche saumon, un jean un peu trop grand, des sandales de cuir. Clotilde devinait que souvent il devait se statufier ainsi, s'arrêter, qu'il avait conservé de ses rêves avortés un pouvoir magique, celui de transformer, pendant quelques secondes éphémères, la réalité en quelque chose de plus beau dans sa tête, qu'il avait appris à s'en contenter. Transformer le rayon poisson du Super-U de Lumio en un sanctuaire marin inviolé. Le cours Napoléon d'Ajaccio, bagnole contre bagnole, en traversée transatlantique en solitaire. Une étreinte pressée dans l'obscurité avec la femme qui s'endort chaque jour à ses côtés. En nuit d'amour étoilée avec l'une des passantes jadis croisées. L'une des passagères de l'Arion, jadis embarquée. Beau, solide, fragile. Natale ? Elle avait enfilé une robe lilas qui flottait sur ses cuisses. Fait valser ses nu-pieds pour marcher sur le sable encore froid. Presque humide. Il se retourna, planta ses yeux dans les siens. Beau, solide, fragile, dangereux. Rien de plus dangereux que les hommes au regard lagon, pensa Clotilde. Exploser la barrière de corail, c'était aussi laisser entrer tous les monstres marins dans l'enclos protégé, celui où les familles peuvent patauger sans danger. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, sans franchir le dernier mètre qui les séparait. « Tu as joué avec le feu en me donnant rendez-vous ici, » fit Natale. « Je m'étais promis de ne jamais remettre les pieds sur cette plage. »« Tu avais promis beaucoup d'autres choses ?» Il ne répondit pas. Son regard glissa sur l'Arion, toujours amarré au rocher. « Tu as eu de la chance aussi. J'étais libre aujourd'hui et je ne reprends mon service que demain matin. » Clotilde se pinça les lèvres. « Pas moi. » Mon mari est parti courir, une demi-heure, une heure au maximum, jusqu'à Notre-Dame de la Serra. Je dois être revenue aux Euproctes à peu près en même temps que lui. C'est compliqué. Je lui dis que j'avais perdu une boucle d'oreille ici, un grand anneau argenté. Ce n'est pas qu'une excuse d'ailleurs, je l'ai vraiment perdu l'autre nuit pendant le concert. Toutes les minuscules rides du visage de Natale se mirent à bouger ensemble. En harmonie, comme si elle avait répété pendant toutes ces années une chorégraphie uniquement destinée à rendre son sourire irrésistible. Je t'aide à la chercher ? Il lui prit la main. Le geste avait quelque chose de naturel. Ils marchèrent, lentement, les yeux baissés. Tu te souviens ? Demanda Clotilde. Bien entendu. Tu crois que j'emmenais souvent des filles dans mon sanctuaire ? « Oh oui, mon beau pêcheur de sirène, tu n'as pas dû te priver à l'époque. »« Elle fixa la mer. Il y a encore des dauphins ? Les yeux de Nathalie ne quittaient pas le sable. Il ne répondit pas. Clotilde continua. Après, elle se tairait, promis. Elle le laisserait parler. Elle le laisserait expliquer. Elle se contenterait de l'écouter, comme avant. Galdor et Tatier doivent être toujours vivants, fit-elle. Orophine et Idril aussi. On dit que les dauphins vivent plus de 50 ans et qu'ils ont une mémoire d'éléphant. Plus fort que des pachydermes, même. La plus grande mémoire amoureuse de tous les mammifères. J'ai lu qu'ils étaient capables de reconnaître une partenaire rien qu'au son de sa voix, plus de 20 ans après l'avoir quittée. Tu connais un homme qui serait capable de ça ? Les yeux dans le sable, toujours. Pourquoi avait-elle parlé de cette fichue boucle d'oreille ? Elle détailla la paillote tropicaliste fermée devant eux. Les poubelles entassées, la caravane grise cadenassée. D'après les affiches, Maria Tiara continuait sa tournée dans l'ouest de l'île. Elle était à Sartène hier soir, à Propriano ce soir. Mais elle remontait à Calvi dans 2 jours. Elle serra plus fort encore la main de Natale, comme pour le prévenir de ce qu'elle allait dire. C'est quoi ce délire ? Cette boîte de nuit sordide, ces baraquements immondes. Ton ponton, ta réserve, ton musée des cétacés auraient dû être construits ici. Explique-moi, Natale. Explique-moi pourquoi Cervone Spinello a gagné. Gagné contre ton projet. Des sacs plastiques éventrés volaient, des canettes roulaient. Il faudrait des heures à une brigade verte pour tout nettoyer, et tout recommencerait après-demain. Comment son grand-père Cassanou avait-il pu accepter ce sacrilège ? Préférer laisser prospérer cette plage poubelle plutôt que le sanctuaire de dauphins de Natale et Angeli. C'est une vieille histoire, Clotilde. C'est du passé, s'il te plaît. Ok, ok. Ne pas le brusquer. Tu avais emmené ma mère aussi ici. T'es folle, regretta aussitôt Clotilde. Tu appelles ça ne pas le brusquer ? Cette fois pourtant, Natale réagit. Ses pieds fouillaient la plage, comme s'il gardait espoir de découvrir la boucle d'oreille. Oui, et toi tu étais prête à sortir les griffes, les canines et les épines. Un petit hérisson raide dingue de jalousie contre ta mère. Y avait de quoi, non ? Non. Ils arrêtèrent de marcher, pivotèrent, se retrouvèrent face à l'Arion. J'avais 15 ans, Natale, mais je n'étais pas complètement idiote. Tu regardais ma mère avec un regard qui la déshabillait. Et elle aussi te regardait avec le même désir, comme je ne l'avais jamais vu regarder aucun autre homme, même papa. Doucement, le pouce de Natale lui caressa la paume de la main. Comme cette histoire de battement d'ailes d'un papillon entraînant un tsunami à l'autre bout du monde. Ces infimes frottements sur sa peau provoquaient des ricochets de sensations jusqu'au plus profond de son ventre. Un tsunamour, ça existait ? D'accord, Clotilde, fit Natale en haussant brusquement la voix. Ôtons les masques. Depuis le temps, ils doivent être aussi usés que nos visages sont ridés. À l'époque, lors de l'été 89, j'avais 25 ans. Ta mère en avait 40. Nous étions attirés l'un par l'autre, je te l'accorde. Attirés physiquement, s'il faut te le préciser. Mais ta mère était fidèle, et il ne s'est rien passé entre nous, crois-moi, même si elle a été tentée. De petits anges bien sages, ironisa Clotilde. Natale continua comme s'il n'avait rien entendu. Si ta mère a été tentée de tromper ton père, ce n'est pas parce qu'elle était tombée amoureuse de moi, et encore moins parce qu'elle n'aimait plus ton papa. Il esquissa un sourire triste. C'était même tout l'inverse. Tout l'inverse ? Je ne comprends rien, Natale. Ta mère s'est rapprochée de moi. Ta mère m'a draguée, allumée, s'est promenée avec moi en public pour que cela se voie, se sache, fasse causer dans le pays. Mais c'est ton père qu'elle aimait. Tu comprends maintenant ? Toujours pas, désolée. Ta mère voulait rendre ton père jaloux. C'est aussi simple que cela, Clotilde. Elle n'en avait rien à faire de mon sanctuaire, de mes dauphins et de mes mains qui sentaient le poisson. Elle voulait juste faire réagir ton père. Clotilde lâcha la main de Natale laissa le vent fouetter son visage, caresser ses jambes, comme aucun homme ne le ferait jamais avec autant de patience. C'était aussi un peu compliqué, Clotilde, entre ton père et ta mère. Elle ne voulait pas en entendre davantage. Pas ici, pas maintenant. C'est vieux comme le monde, Clotilde. Les liaisons dangereuses, tu te souviens? Le livre que tu lisais sur ton banc, dans le port de Starezo, face à l'Arion. Ta mère a joué avec moi, m'a utilisé parce qu'elle en aimait un autre. Et moi, comme un couillon, je n'ai rien vu. Je suis tombée dans le panneau. Palma avait beaucoup de charme, de classe. Elle s'intéressait à mon projet. Elle était architecte. Elle avait des idées très concrètes. Je croyais presque qu'on pourrait les réaliser ensemble. J'avais l'impression qu'entre nous naissait une complicité. Alors qu'en réalité... C'était à mon tour de fouiller la plage des yeux. Aucun bijou enterré. Juste des mégots, des capsules de bière et peut-être même des préservatifs, si on remuait un peu le sable. Alors qu'en réalité, continua Nathalie, c'est entre toi et moi que se tissait cette complicité. Pas avec Palma, avec toi. Je pense que cela aussi, ça a compté. Clotilde chercha dans le vide la main de Nathalie, l'attrapa au vol, tira sur elle pour qu'il pivote, se tienne face à elle. Après tout, puisque c'était la fin du carnaval, puisqu'on balançait les masques à la mer... Fantasmer sur la mer tout en laissant la fille fantasmer sur toi. C'était un plan un peu tordu, tu ne trouves pas? Non, Clotilde, non. Bien entendu, tu étais toute craquante du haut de tes 15 ans, même si tu en paraissais à peine 13. Mais il n'y avait aucune ambiguïté, aucune. Simplement, j'avais déjà deviné. Devinez quoi? Son pied fouilla le sable, gêné, adorablement gêné. Devinez qui tu allais devenir, avec le temps. Une fille pétrie de fantaisie. Une fille vive et intelligente, pétillante. Une fille superbe qui croquerait la vie. Une fille qui, même ayant vieilli, la regarderait avec les mêmes lunettes que moi. Une voix lointaine résonnait en écho dans la tête de Clotilde. On est de la même race, les pêcheurs de rêves contre le reste du monde. Mais j'avais 10 ans de trop, Clotilde. Ce n'est rien 10 ans, mais pour nous, c'était déjà 2 courbes qui se croisaient. La tienne qui allait monter haut sur l'échelle de la séduction, et la mienne qui commençait à dégringoler. Arrête ! Il se pencha, soudain comme pour échapper à ses bras. Arrête, Nathalie. Arrête de tout noircir, de te détruire. Tu sais très bien que... Il se releva sans la laisser terminer. Entre son pouce et son index, il tenait un anneau d'argent. C'est le tien ? Incroyable. De la magie, de la pure magie. Merci. Il ne faut jamais lutter contre la magie, pensa Clotilde. Cela porte malheur. Ses pensées s'ordonnèrent d'un coup, comme les rides enchantées sur le visage de Nathalie. Comme une évidence. L'embrasser. Juste un bisou, pour honorer un contrat vieux de 27 ans. Juste un bisou, pour solder un fantasme vieux de 27 ans. Juste un bisou, et puis c'est tout. Pour ne pas mourir idiote, pour ne pas le regretter toutes les années d'après, quand son corps se mettrait à dégringoler. Juste sentir de sa bouche le goût. Doucement, Clotilde posa ses lèvres sur celles de Nathalie. Un instant seulement. Puis, leurs 4 lèvres se décollèrent, comme il était convenu, comme il était convenable. Un instant seulement. Avant que leurs 10 doigts réunis ne s'affolent autour du cercle d'argent. Avant que la main de Clotilde ne s'empare de la nuque de Nathalie, et celle de Nathalie du creux de ses reins. Avant que leurs bouches ne se fondent en une seule, et que leur langue rattrape le temps perdu, que leurs corps se pressent comme s'ils avaient depuis toujours été dessinés pour s'épouser, comme si plus rien d'autre qu'eux ne pouvait exister. Ils restèrent ainsi de longues minutes, à s'embrasser, à écraser ses seins contre son torse, ne sachant plus quoi faire pour retenir le temps. la tête posée sur l'épaule de Nathalie, Clotilde fixait l'arion, attaché à son amarre. Les doigts du pêcheur couraient sur son dos, pressés, infatigables, maladroits, tels des bébés quintuplés qui viendraient d'apprendre à marcher. « Remets-le à flot, Nathalie. Embarquons. Retournons avec les dauphins. Tournons la suite du film. Il y a eu au moins 5 dents de la mer. On peut bien inventer un grand bleu numéro 2. » Il esquissa un sourire navré. « Impossible, Clotilde. Pourquoi ?» Elle l'embrassa encore, à en perdre le souffle. Elle se sentait tellement vivante. « Impossible, impossible de te le dire. Pourquoi ? Pourquoi as-tu enchaîné l'Arion, Nathalie ? Pourquoi as-tu épousé Aurélia ? Pourquoi est-ce que c'est toi, aujourd'hui, qui as peur des fantômes ?»« Parce que je les ai vus. C'est aussi simple que ça, Clotilde. » « Putain, Nathalie, les fantômes n'existent pas. Même à 15 ans, même déguisée en Lydia, je n'y croyais pas. C'était un jeu. Les fantômes, c'est l'inverse des vampires. Un baiser et ils disparaissent. » Et elle l'embrassa. « Je l'ai vu, Clotilde. Qui as-tu vu ?» Elle approcha encore ses lèvres, mais il se détourna, se contentant de poser une main dans le creux de ses reins pour la presser contre lui. « Tu vas me prendre pour un fou. »«
Trouve autre chose, ça c'est déjà fait. » »«
Je ne plaisante pas. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Jamais. Pas même à Aurélia. Et pourtant, cela a hanté ma vie depuis. »«
Depuis quand ?»«
Depuis le 23 août 1989. » Elle glissa, se raccrocha à son épaule.
« Raconte-moi, Nathalie, raconte-moi. »
J'étais à la Punta Rossa. Chez moi, seule, je buvais. Moins qu'aujourd'hui, mais je buvais déjà, au moins ce soir-là. Je savais que ce jour-là, je ne verrais pas Palma. Tu sais pourquoi, bien entendu. L'anniversaire de rencontre de tes parents, la Sainte-Rose, leur jour sacré. Alors je noyais ma pitoyable jalousie dans le myrte, les yeux tournés vers le sommet du Capo d'Iaveta. Le fantôme est apparu à 21h02, en haut de la colline. Je n'ai aucun doute sur l'heure, Clotilde. La télé était allumée. Thalassa venait de commencer et l'écran affichait l'heure exacte. 21h02. Le fantôme se tenait à environ 100 mètres de la maison, sur le sentier des douaniers, immobile. 21h02, le 23 août 1989. Clotilde frissonna, se blottit contre le corps brûlant de Nathalie, enfuit sa joue dans la capuche de son souhaite. La Fuego avait basculé dans le vide à 21h02 très exactement. Tous les rapports de la gendarmerie et des pompiers étaient formels.
Je sais que c'est impossible à croire, Clotilde. Je sais que tu vas me prendre pour un dingue, mais à la seconde où la voiture de tes parents s'écrasait sur les rochers de la Petracoda, à la seconde où ton frère, ton père et ta mère perdaient la vie, je l'ai vu apparaître par ma fenêtre. J'ai vu ta mère, aussi distinctement que je te vois. Elle m'a fixée, comme si elle voulait me voir une dernière fois avant de s'envoler. Elle est restée ainsi de longues minutes, sans oser franchir les derniers mètres qui la séparaient de moi. Quand j'ai compris qu'elle ne bougerait pas, j'ai décidé de la rejoindre. Le temps de poser mon verre, d'ouvrir la porte, de courir vers elle. Elle avait disparu.
Ses doigts se crispèrent dans le dos de Clotilde. Les quintuplés possédaient déjà une force de géant.
Je n'ai appris l'accident de tes parents que quelques heures plus tard, continua Nathalie. Je n'ai compris qu'à ce moment-là. Cela ne pouvait pas être ta mère. Au moment où elle m'apparaissait, elle mourait à 4 kilomètres de là. Cela ne pouvait être que son fantôme. Qui pourrait croire ça ?
Moi !
Moi, je te crois, martela Clotilde à son cerveau pour qu'il l'admette. Bien entendu que je te crois, puisque ce fantôme m'a écrit, puisque ce fantôme m'a regardé sous le chêne d'Arcano, puisque ce fantôme a pris son petit déjeuner hier, a lu son journal, puisque ce fantôme a adopté un chien pour ne pas s'ennuyer. Clotilde posa un long baiser dans le cou de Nathalie, puis, doucement, desserra l'étreinte. À regret.
Je dois y aller. Frank va rentrer. Tout va être compliqué. Se revoir vraiment.
Elle se força à sourire avant de continuer.
Ça doit être la règle numéro un de tous les manuels de l'infidélité pour les nuls. Ne jamais prendre un amant pendant les vacances, en famille, avec son mari et sa fille.
Je travaille demain matin,
fit Nathalie, avec une assurance qui la troubla.
Mais je suis libre cet après-midi. Tu pourras me rejoindre.
Impossible, Nathalie.
Elle agita l'anneau d'argent devant ses yeux.
Je ne pourrai pas trouver d'autres excuses crédibles. Frank se méfie, il...
Belvédère de Marconi, coupa le pêcheur.
À 13h.
Ton mari te laissera t'y rendre seul.
Belvédère de Marconi. Nathalie avait raison. Jamais Frank ne pourrait se douter qu'elle s'y rendait pour retrouver son amant. C'est le dernier endroit où elle aurait eu envie de le tromper. Le belvédère de Marconi était célèbre pour son cimetière, pour ses mausolées, ceux des plus riches dynasties corses de la Balagne, pour le plus monumental d'entre tous, celui des Idrissi, la tombe de ses parents.